il faut réussir sa vie. Il n'a pas, elle n'a pas réussi sa vie. Tu ne feras rien de ta vie. C'est important de réussir sa vie. Et ça, c'est des choses qu'on entend dire tous les jours ou presque dans tous les milieux. Ça paraît important, c'est très important de réussir sa vie, ça se comprend, puisqu'il s'agit justement de sa propre vie, de la façon dont on l'a vécue ou comme il va falloir la préparer pour la vivre au mieux. C'est quand même une remarque qui est relativement logique. Mais en fait, il faut peut-être savoir aussi ce que les personnes, vous, moi et les autres, entendent par l'expression réussir sa vie. Est-ce que ça a le même impact pour tout le monde? Moi, je ne crois pas. Hein, entre un jeune qui, lui, pense à son avenir, une personne plus âgée qui est en train de faire le bilan, et peut-être même qu'il est trop tard pour lui pour revenir sur certaines choses. Donc, il doit falloir faire une analyse sur réussir sa vie. Tout en pensant que ça va être quand même une analyse qui ne peut être que subjective. Parce que ce qui sera une réussite pour moi ne le sera pas pour vous. Ce qui sera catastrophique pour Monsieur Dupont, ce sera merveilleux pour Madame Martin, et donc ça va être un peu difficile de cerner le sujet, peut-être. Mais je crois que on est capable d'y arriver.
On y va.
On y va. Alors, je vous écoute. Pour vous, exactement, réussir, disons, sa vie, c'est quoi? Après, on verra. S'il faut choisir des critères d'évaluation, rationaliser un peu cette recherche.
Pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, on va commencer avec des choses concrètes. Pour ma fille qui a 12 ans et demi, réussir sa vie, c'est avoir des bonnes notes à l'école. Pour mon fils qui a 22 ans, réussir sa vie, c'est réussir son examen qui va lui permettre d'être plombier. Et
La petite fiancée.
c'est aussi construire ses objectifs de mariage. Pour celui qui est au chômage, c'est de trouver du travail, etc. On a des objectifs donc à court terme, immédiats. Par exemple, quand quelqu'un aujourd'hui vit une journée difficile, il va dire oh là là, vivement que ce soir que j'arrive chez moi, que je puisse manger un morceau, me reposer, me coucher. Et là, il y aura une réussite immédiate. Il y a aussi des réussites à moyen terme. La réussite à moyen terme, c'est par exemple passer un cap difficile quand on a, je dirais, une crise familiale, c'est d'arriver à voir comment gérer la crise. Quand on a un cancer et qui est rémissible, c'est de voir comment est-ce qu'on peut finalement d'un côté en guérir et de l'autre côté
Faire face.
prévenir, hein, prévenir que ça, prévenir d'une récidive. Mais personnellement, je mettrais encore plus l'accent sur ce qui est absolu, sur ce qui est universel, c'est-à-dire sur la manière qui permet toujours de réussir sa vie. Que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour dans 3 mois, que ce soit pour dans 3 ans ou 30 ans, que ce soit pour franchir l'étape de la mort, et cette manière-là, on va la trouver en Dieu.
On ne peut pas, évidemment, étant chrétien, mettre de côté, évidemment, l'impact de Dieu, si vous voulez, dans nos vies, c'est sûr. Et ce qui m'amène, c'est que pour réussir sa vie, il y a plusieurs ingrédients. Alors, en plus de ces ingrédients, de ces éléments, je veux dire, qu'il faut mettre en place, hein, savoir comment faire face à son cancer, quels vont être nos rapports avec Dieu, comment avoir de bonnes notes, il vaut mieux quand même réviser. Hein, donc, c'est des choses qui font qu'on peut améliorer sa vie de tous les jours, bien sûr. Mais il y a aussi un savoir-faire, parce que je suppose que certaines personnes sont inquiètes. C'est leur problème. Il faut réussir la vie. Que ça devient même pénible, une obsession. Ils vont penser qu'à ça. Ils risquent de ne pas réussir leur vie parce qu'ils vont avoir ça un peu comme un objectif à atteindre sans très bien savoir ce que c'est. Hein. Donc, il faut avoir une méthode. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode précise?
Alors, pour être un peu caricatural, il y en a deux. C'est celle du perfectionniste, qui est très ordonné, qui est toujours insatisfait, toujours inquiet, toujours dans l'exigence, dans la critique, dans la surveillance de ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est une méthode, on pourrait dire un excès, mais cette méthode, elle produit des fruits assez bons. Le problème, c'est que finalement, s'il réussit ce qu'il fait, le perfectionniste, je ne sais pas s'il réussit ce qu'il est.
Voilà.
Et puis, il y a une autre méthode, c'est le je m'en foutiste, le laxiste, celui qui se laisse vivre, celui qui finalement ne cherche pas tellement à surmonter les difficultés, celui qui ne s'organise pas, mais celui qui est toujours en train de prendre le bon côté des choses. Et quelque part, il risque bien celui-là de rater pas mal de choses parce qu'il ne s'organise pas, hein, de rater son voyage, parce qu'il n'aura pas de passeport, par exemple, ou de rater quelque chose parce qu'il aura oublié quelque chose pour l'enregistrement. Mais ça fait rien. En fait, il est content, il est heureux, et de ce fait, parce qu'il est bien, non, il fait peut-être pas très bien, mais parce qu'il est bien, alors ce qu'il fait, c'est agréable, parce que lui est bien. Et donc, il y a, de ce point de vue-là, une méthode sur ce qu'on fait, mais il y a aussi une méthode sur ce qu'on est. Et le perfectionniste, il fait bien, mais il n'est pas bien. Et mettons que le laxiste, il ne fait pas bien. Mais en général, c'est des gens qui sont agréables à
À vivre et
fréquenter,
à fréquenter.
hein, qui ont un regard sur la vie, sur la journée, qui positif, qui rappellent des choses agréables, qui font de l'humour, etc. Et là, on est dans des choses assez pratiques, c'est-à-dire qu'on est dans des manières personnelles profondes de réfléchir, mais qui restent assez pratiques. Le laxiste, c'est celui qui dit, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Au dernier moment, il se dit, tiens, je pourrais faire ça. Et du coup, il est un petit peu préparé à improviser. Et du coup, ça marche toujours. Parce que, en fait, il se fait jamais de soucis. Et quand il improvise, parce que finalement, il lit les journaux, ou il va quand même au travail et qu'il connaît à peu près son travail, eh bien, ça marche pas trop mal. Et cette personne-là sera bien appréciée.
Mais c'est ce que je disais un peu tout au départ, en disant que pour certaines personnes, ça devient quelque chose de terrible de vouloir réussir sa vie et ne pense que ça. Et que celui qui le prend plus à la légère n'a pas cette obsession et voit plus facilement les choses et s'accommode plus facilement. Et il se détache peut-être aussi de certains pièges, évidemment, qui peuvent embêter, empêcher l'autre de sortir de cette optique de réussir sa vie.
Alors, je voudrais un tout petit peu approfondir
Oui.
cette réalité avec ces deux personnages ou ces deux manières de faire, rigoriste, laxiste, ou perfectionniste, laxiste. C'est que dans tout événement, et je compte sur vous pour que les choses soient bien pratiques pour ceux qui nous entendent, dans tout événement, il y a deux grandes choses. La première, c'est ce que l'on fait. La deuxième, c'est ce que l'on est. La première, c'est l'action. La deuxième, c'est la relation. Et je vais prendre deux ou trois exemples pour montrer comme l'action et la relation sont présents dans tout ce que nous faisons. Alors, premier exemple, vous et moi, en ce moment, nous sommes en train de faire un enregistrement. Alors, si on est centré sur l'action, alors à un moment donné, on va entendre quelqu'un sonner à la porte et on va se dire, oh malheur! Il y a un bruit à la porte,
Une nuisance,
une
on dit.
nuisance, et on va dire notre enregistrement est fichu. Bon, alors on pourrait dire que du point de vue de l'action, cette nuisance va apporter quelque chose de gênant dans ce qu'on fait. Mais du point de vue de la relation, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il y ait un bruit de sonnerie? Est-ce que ça gêne quelque chose par rapport à notre enregistrement? Est-ce que ça a empêché d'entendre ce qui s'est passé? Pas du tout. Alors, mais du point de vue de la relation, nous sommes, nous, ensemble, en train de faire des choses intéressantes, mais nous sommes dans l'amitié, dans la collaboration, dans quelque chose de profond et d'intéressant même pour nous. Et en plus de ça, on sait, parce que c'est vrai, que ce que nous faisons actuellement est aussi intéressant pour les gens qui nous écoutent. Donc, du point de vue relationnel, ce que nous faisons est très bien. Et du point de vue actionnel, alors il y aura un tout petit bug. Mais je dirais que les gens qui sont surtout intéressés par l'actionnel et qui s'intéressent peu au relationnel, alors ils sont très crispés.
Oui, bien
Et les
sûr.
gens qui sont intéressés par le relationnel et peu par l'actionnel, alors quand l'actionnel ne marche pas bien, ils ne seront pas crispés. Et je crois que idéalement, il faudrait qu'on ait ces deux côtés. Qu'on ait ces deux côtés, qu'on comprenne que dans tout événement, il y a la relation et l'action, mais que par exemple, alors prenons un autre exemple, j'invite quelqu'un chez moi pour boire un café, mon voisin. Et je suis, moi, quelqu'un de très, très, très relationnel. Et alors, mon voisin vient, alors chez moi, ça sent mauvais,
Ah
parce qu'en
bon?
fait, j'ai oublié quelqu'un a marché dans un...
D'accord.
Et donc, j'ai oublié de l'enlever, et je savais que ça sentait mauvais, et j'ai oublié de l'enlever. Et alors, mon voisin arrive, et puis, il me montre qu'il sent un
Y a
petit peu.
quelque chose qui
Et
le
alors,
gêne.
je m'esclaffe et je lui dis, ah, vous avez senti, hein, mon fils, ma femme, etc., ou moi, j'ai marché dans une crotte de chien et j'ai oublié de le nettoyer, excusez-moi, je le fais asseoir, je vais nettoyer la crotte de chien, je mets un petit peu de pchit-pchit et je reviens, et puis on
On
discute.
repart à
Et
zéro.
tout va bien, seulement, si lui, il est perfectionniste, si lui, il est dans l'action, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce voisin qui m'invite à un truc pareil? Pour lui, la rencontre ne sera pas réussie. Parce qu'il dira, cette personne-là, elle accueille mal. Alors que pour moi, elle sera
Elle ne m'a pas
réussie,
respecté, à la
elle ne m'a pas
limite.
respecté. Alors que pour moi, en fait, qui suis dans la relation, je dis, ça m'est complètement égal d'être en chantier, etc. L'important, c'est que j'invite la personne.
Mais oui.
Et je crois qu'avec des exemples comme ça, on voit qu'il faut explorer ces deux caps. Et souvent, vous avez des gens qui ne pensent qu'à l'action, les gens qui sont là pour vous déblatérer, etc., mais qui se fichent pas mal de vous dans un sens, hein.
Oui.
Ou des gens qui pensent qu'à la relation, et quelque part, ils perdent dans la qualité de ce qu'ils font.
Bon, ben déjà, vous avez mis en évidence un ingrédient pour savoir si on réussit sa vie, c'est dans soit le relationnel, soit dans l'action, savoir mettre de côté, à part, certaines tendances et savoir, par exemple, relativiser. Vous avez préféré recevoir tout de suite votre voisin plutôt que d'arranger le cadre. Voilà, c'est ça. Alors ça va être peut-être déjà un élément qui va permettre de jouer, bien sûr, cette relation, bien sûr. Et donc, il y a d'autres choses, certainement, à mon avis, qu'il faut savoir et qu'il faut certainement développer, parce que c'est bien. Mais est-ce que dans la vie, il y a l'avoir et puis l'être? Et je vais en mettre un au milieu, c'est le faire, ce qui rejoint à votre action. Et pour savoir, en examinant et en passant, si vous voulez, au filtre de ces éléments, il vaut mieux peut-être, plutôt que chercher l'avoir, c'est-à-dire le matériel, l'enrichissement, la puissance, le pouvoir sur les autres, ce qui implique parfois donc des prises de position douloureuses et pas très bonnes vis-à-vis des autres, hein, pour avoir, on se débrouille, hein, bien. Est-ce qu'il vaut mieux pas laisser de côté l'avoir et préférer le faire? Donc, si vous faites, d'abord, un, vous impliquez vous-même, mais en général, quand vous faites quelque chose, soit pour les autres, soit vous faites avec. Donc, déjà, ça implique évidemment une autre idée, une autre notion. Et je vais aller alors plus loin. Est-ce qu'il vaut mieux pas dépasser pour réussir sa vie, si on veut toujours réussir sa vie? Je poserai la question tout à l'heure, si c'est important de le savoir, hein, parce que je ne suis pas très bien, très très sûr, en fait, hein. C'est d'être soi, d'être construit, d'être équilibré et évidemment correspondre à ce que Dieu veut, être en fonction de ce que Dieu veut. Alors, avoir, faire, être.
Alors, si vous voulez, on va commencer par l'avoir. Je pense que Dieu nous appelle à l'avoir, à avoir plus. Hein. Dieu nous appelle à fructifier, hein, c'est ce qu'il dit dans la Genèse, fructifier, multiplier, remplissez la terre. Et, par exemple, avoir de l'amour. Avoir plus d'amour est quelque chose de tout à fait légitime et de tout à fait heureux. Et donc, je dirais que toute action, tout événement, autant en action qu'en relation, est un événement dans lequel l'augmentation de l'avoir est normale. Cela étant, je pense qu'il y a des pièges qui concernent cet avoir. Et je voudrais en citer au moins deux, en montrer au moins deux. Le premier, c'est l'égoïsme. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de discours sur l'égoïsme, mais l'avoir prédispose à l'égoïsme, c'est-à-dire que si dans l'événement que je suis en train de vivre, c'est l'avoir qui me préoccupe, alors c'est sûr que ça va très vite être vécu de manière égoïste. Et si mon avoir n'est pas suffisant, je ne serai pas bien. Et la deuxième chose, et puis on en reparle, c'est que je ne crois pas que l'humain soit capable de juger de la qualité de la plus-value, de l'avoir. C'est-à-dire que quand on se rencontre, par exemple, quand on se rencontre, le résultat de notre rencontre, on peut pas tellement le jauger, le juger. Il me semble que on n'est pratiquement jamais dans la vie en mesure de jauger si ma vie est réussie ou pas en fonction de l'avoir. On peut penser qu'une rencontre s'est très très bien passée parce que on a parlé de choses intéressantes, parce que tout a été cordial, etc. Et au fond, l'un pourrait être affreusement blessé pour des raisons inconnues et ne le dira jamais. Et de ce point de vue-là, il y aura quelque chose qui sera affreux. Et donc, cette deuxième raison de ne pas pouvoir, il ne faut pas être dans le résultat. On ne peut pas jauger d'un résultat. Et de ce point de vue-là, je crois que autant j'affirme que c'est normal qu'il y ait un avoir ou que la réussite de la vie concerne l'avoir, mais de l'autre côté, personnellement, je ne fais pas beaucoup attention, et vous me connaissez assez bien, à l'avoir, justement. Je fais beaucoup plus attention à l'être et au faire.
Oui, alors je suis entièrement. Même si au départ, vous pouvez avoir l'impression que j'ai cantonné la voie ou là, une recherche de biens matériels, c'est évident, mais je savais très bien qu'on devait arriver obligatoirement à ce que vous venez de développer, parce que celui qui cherche, par exemple, que des biens matériels, il va mettre de côté la relation en général, et avoir quelque chose qui ne va pas. Et ça rejoint aussi ce que je disais, que je n'étais pas très bien sûr qu'il fallait pas être sûr de savoir si on avait bien réussi sa vie. Et vous venez déjà un peu de l'annoncer. Donc, bien sûr, l'avoir, il faut augmenter l'amour, c'est certain, c'est essentiel aussi. Mais je crois que dans le langage courant, c'est peut-être pour ça que j'ai été prudent, que je ne l'ai pas trop mis en évidence, l'avoir, c'est mon compte en banque. Compte en banque qui est symbolique, hein, parce que ça peut être aussi autre chose. C'est l'image que je donne de ma puissance et ainsi de suite. Alors, le mon deuxième élément, c'était faire. Qu'est-ce que vous pensez de, pour réussir sa vie, le faire est-il important ? F-A-I-R-E, du verbe faire. Hein.
Alors, voilà quelques pistes pour la réussite dans le faire. Je vais être très très absolu. En tant que chrétien, la Bible parle, en tant que chrétien, je vais écouter le message biblique et j'entends que dans la Bible, il est question, dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est le verset 14, des œuvres mortes. Oui. Et l'œuvre, c'est le faire. Et donc, il y a des œuvres qui sont mortes, qui n'ont pas de valeur. Et alors, ça peut être un peu inquiétant, ça. Ce chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux nous dit que notre conscience a besoin d'être purifiée des œuvres mortes. Quelque chose d'un peu terrible. Voilà, oui. Hébreux 9, 14.
Mais ça ne veut pas dire d'être dégagé de ce qui nous a alourdi un peu
c'est
de
ça.
L'avoir.
Ce que nous avons fait, ce que nous avons mal fait dans notre fer. Et qui devient un avoir, effectivement. Mmh. Alors, donc, la grande question, c'est comment bien faire. Alors, je propose, comme jalon, certaines choses très simples. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit que nous avons été sauvés par la grâce, par la foi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, nous dit ce verset, mais c'est Dieu qui l'a fait en donnant son Fils Jésus-Christ pour nous, nous sommes sauvés, et il nous dit, afin, nous avons été créés, afin que nous marchions dans les bonnes œuvres qui ont été créées à l'avance. Et donc Dieu a préparé les choses et nous avons des choses à faire.
Alors voilà. À rechercher.
À rechercher pour les faire, voilà. Voilà. Donc voilà, il me semble, un jalon qui est extrêmement important, c'est que, rentrer dans les généralités qui sont pas assez précises pour être vraiment utiles, mais quand même, elles qui sont intéressantes, je dirais que Dieu nous a placés sur la terre pour qu'on y fasse quelque chose. Et dans le récit de la Genèse, Dieu place l'homme et la femme sur la terre. Alors il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, les oiseaux, les poissons et les animaux sur la terre. Et Dieu dit à l'homme, vas-y, fais quelque chose. Et je crois que partout là où on regarde, il y a des choses à faire. Quand je regarde mon bureau, il faut que je m'occupe de la plante qui n'a pas eu assez d'eau et les feuilles sont un peu jaunes. Il faut que je m'occupe des fenêtres qui sont sales. Il faut que je m'occupe de la sono parce que il y a la sonorisation, il y a certaines choses à réparer, à organiser, à préparer, etc. Donc Dieu a créé la vie avec des choses à faire. Et là, ce ne sont pas des œuvres mortes. Là, ce sont des œuvres dans lesquelles Dieu m'appelle à faire des bonnes choses. Alors comment savoir si ces choses sont bonnes ou si elles ne sont pas bonnes?
Oui, mais en fait, ça paraît peut-être relativement... ces choses à faire, moi je le vois presque comme une continuation de l'œuvre de Dieu.
Absolument.
Donc, il ne va pas nous faire faire n'importe quoi,
je sais ça. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que ça va se réaliser au travers de nous.
Voilà,
c'est la question. Alors, je voudrais prendre quelques exemples pour parler de manière très concrète. Un exemple très très simple, c'est comment puis-je savoir que j'ai assez mangé? Voilà, je suis en train de manger, je fais une œuvre.
Oui.
Une œuvre de manger.
Oui, bien sûr. Hein? Vous entretenez une créature de Dieu vivante.
Absolument. Et donc Dieu m'appelle à le faire avec sobriété. Sobriété qui vient du latin, je crois, qui sine ebrietas, sans ébriété.
Ah oui.
Et donc, là, on comprend quelque chose, hein. C'est assez, assez intéressant.
Oui, oui, oui.
Donc, quand je mange, alors j'ai des capteurs, en fait. Hein? J'ai la faim, j'ai l'estomac, j'ai mon état général, hein? Peut-être beaucoup manger donne sommeil, etc. Comment bien manger? Bien manger équilibré. Hein? Comment bien manger? C'est peut-être aussi savoir manger avec quelqu'un. Si je suis seul à la maison, c'est ouvrir ma maison, etc. Et donc là, il y a des réalités qui me permettent de savoir comment faire. Après, d'autres réalités chez moi, le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous dit 1 Corinthiens 14, verset 30 par là. Il me semble que nous avons à comprendre que là où nous regardons, nous savons, parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans ce savoir, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le collégien, le lycéen, l'étudiant, il sait qu'il faut qu'il fasse son travail. Il y a une conscience qui lui parle. La conscience, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle par le biais de tout ce qui habite nos pensées. Et donc, la conscience nous titille, elle nous réveille, elle dénonce, elle nous gêne quelque part. Hein? Et donc, nous avons, nous, à vraiment rentrer dans cette marche soigneuse. Et c'est là où nos bonnes œuvres, qui sont des œuvres qui, comme vous l'avez dit, prennent sa source en Dieu, alors trouvent un peu leur chemin.
Alors, il faut prendre conscience de ce que l'on fait quand même et savoir si c'est bien ou pas. On a dans cette action que l'on veut, ce que l'on fait, il faut se surveiller. Il faut quand même qu'il y ait un filtre qui nous dise, est-ce que oui, il faut que je m'arrête de manger parce que je serai malade, pour reprendre l'exemple que vous avez donné. Il faut peut-être que je range mon établi pour que je puisse travailler plus simplement, dira l'artisan. Donc il faut quand même qu'il se pose des questions. Il ne faut pas qu'il se laisse aller.
Absolument. Alors, comment se poser les questions?
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que on peut peut-être poser un principe général de réussite, commencer à le poser, et puis après
Oui.
on l'examinera. Il me semble que ces trois vertus ou qualités que sont la foi, l'amour et l'espérance, ou la foi, la charité et l'espérance, sont trois choses qui sont extrêmement importantes, je dirais qui sont fondamentales dans la marche de l'humain ou du chrétien pour qu'il réussisse sa vie. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est la réalité vivante d'une relation avec Dieu. La foi, elle relève de croire. C'est-à-dire que je crois que Dieu existe et je crois que Dieu est, et du coup, je relationne avec lui. C'est ça la foi. La foi, elle n'a de sens que si ma relation est vivante, que s'il se passe quelque chose, que si je lui parle.
Oui, qui est une confiance qui se met en place.
Voilà. Et d'ailleurs, confiance, ça veut dire avec la foi.
Avec la foi.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et alors, l'amour, autant la foi est affaire de relation à Dieu, verticale,
Verticalement.
autant l'amour est affaire de relation aux autres, horizontale, et autant l'espérance est affaire d'action. Puisque l'espérance, c'est d'attendre que mon action trouve son aboutissement, sa plénitude, que j'en ai le résultat,
Les fruits.
les fruits. Et donc l'espérance, c'est l'attente. Et l'attente de quoi? Eh bien l'attente justement qu'on découvre avec Dieu le magnifique travail que l'ensemble de l'humanité aura fait quand ça sera le moment. Et donc réussir sa vie, nous ne le verrons qu'à la fin. Hein, que quand l'espérance aura fait place à l'amour, c'est-à-dire à la relation à Dieu. Et donc nous sommes obligés de dire en attendant.
Voilà.
Alors, si on peut poser ces choses comme ça, alors on va parler maintenant de la première chose qu'il y avait quand vous avez commencé à prendre la parole, c'est-à-dire de la foi, c'est-à-dire de savoir comment en nous-mêmes est-ce que le sens d'une bonne réalité des choses peut se faire. Alors, je crois que l'intervention de Dieu dans notre vie personnelle, c'est comme la lumière dans une pièce. Et ici, nous sommes à Aix-en-Provence, dans un bureau qui a des pièces au midi, même si les fenêtres sont sales, la lumière rentre. Et
Elles sont poussiéreuses, mais enfin, faut pas exagérer non plus.
la lumière rentre, et parce que la lumière rentre, même si on est en novembre et que le soleil est bas, alors on voit. Et partout là où on regarde, on voit. Il me semble que dans la vie, dans l'esprit, c'est exactement pareil. Je crois que quand on est sincère devant Dieu, la sincérité, c'est... Alors, j'ai entendu que l'étymologie latine de sincère, c'était sans cire, sans enveloppe. Mais ça, j'en suis pas sûr, il faudra que je le vérifie. Mais si on est sincère devant Dieu, alors je crois que la pensée ou l'idée que l'on a de quelque chose se précise. Et quand on regarde vers quelque chose avec foi, justement, dans un cadre relationnel à Dieu, alors on sait. Et c'est là où l'idée où la foi est essentielle dans l'action. C'est-à-dire que ce que moi je vais faire va se préciser de manière absolue en Dieu. C'est la foi qui me tire d'affaire, c'est la foi qui me fait réussir, c'est la foi qui me permet de comprendre, c'est la foi qui me donne l'intelligence, c'est la foi qui me donne la sagesse, c'est l'intervention de Dieu dans ma vie qui permet ça, et dans tous les exemples qu'on pourra trouver.
Mais moi, Guillaume, je vous félicite, c'est très bien d'être un homme de foi, mais je suis peut-être un peu moins assuré parce qu'il y a aussi les crises de foi, hein, effectivement, où l'homme parfois va se poser des questions, même au niveau de la sincérité dont vous parliez. Donc, c'est pas quand même si facile que ça.
Alors, justement, c'est très bien que vous parliez de ça
Ben oui.
parce que je crois que l'erreur, la faute, la crise de foi, le chemin dévié sont autant de situations dans lesquelles Dieu nous parle aussi sur le bon chemin. C'est en connaissant les chemins déviés qu'on va connaître le bon chemin. C'est-à-dire que je vais aller un peu plus loin que ma pensée profonde.
Oui.
Quelqu'un qui n'aura jamais fauté, je ne parle pas de Jésus-Christ, hein. C'est quelqu'un qui, quelque part, ne connaîtra pas bien son chemin. Parce qu'il ne l'aura pas exploré. Quelqu'un qui explore son
Oui.
chemin, forcément, il faute.
Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, oui.
Et ce qui fait que, finalement, les échecs font partie aussi de notre réussite. Et on dit que Thomas Edison, qui est l'inventeur du filament à incandescence, il a fait 6000 tentatives avant de trouver un filament qui conviennent pour son ampoule. C'est magnifique. Alors on dit, mais quelle perte de temps. Mais non. C'est qu'il a
Non, parce qu'il
essayé,
ne serait pas arrivé.
et oui, il a
On
essayé
est toujours à le faire, là.
5999 chemins avant d'en trouver un 6000e qui aille bien. Donc c'est pour ça que pour moi, quand on me dit, ah, mais vos enregistrements, là, ils peuvent être améliorés, je dis bien sûr. Ils peuvent être améliorés. Mais ils peuvent être sans arrêt améliorés, mais ce n'est pas pour autant qu'on est en échec. Ou plutôt l'échec
Mais
que nous
ça
avons est
permet.
aussi un élément dans la réussite.
Parce que ça permet justement de rectifier les choses.
Absolument.
Hein, c'est l'échec, la souffrance, c'est toujours des possibilités de se reprendre et d'améliorer.
Et puis ce qui est mal fait permet à quelqu'un qui voit que c'est mal fait de mieux savoir comment bien faire.
Oui.
C'est que quand quelqu'un fait quelque chose mal ou parle mal, un prédicateur, un conférencier, etc., eh bien, ceux qui entendent, au moins, ils savent ce qui est mal. Donc, quelque part, c'est utile.
Ou même beaucoup plus pratiquement et matériellement, ils savent que s'ils suivent le même chemin, ça ne va pas bien se passer. Donc, ils vont se servir des expériences des autres
Absolument.
et faire marche arrière ou prendre un autre chemin.
Absolument. Et c'est pour ça que ce n'est pas le résultat qui nous fait dire si on a réussi ou pas. C'est la foi. C'est-à-dire que ce qui nous fait dire si on a réussi, c'est est-ce que j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ d'être avec moi dans ce que je fais? Et alors, c'est pas que sa présence soit une garantie, comment dire, illimitée. Seulement, c'est qu'en fait, sa présence, elle est sanctifiante, elle est agissante. Quand le Seigneur Jésus est dans ma voiture, quand je suis en train de conduire, forcément, je ne conduis pas de la même manière. Quand le Seigneur Jésus est avec moi quand je parle à mon conjoint, forcément, je ne lui parle pas de la même manière. Forcément, quand je suis seul avec le Seigneur Jésus et que je rumine parce que je suis seul ou parce que j'ai trop mangé ou parce que j'ai rien dans mon frigo, forcément, je ne rumine pas de la même manière. Et c'est cette présence et cette foi qui est pour moi vraiment, on pourrait dire, le fondement de ma réussite. Mais après, il y a les autres choses.
Après, il y a d'autres choses. Donc, effectivement, c'est après cette dimension verticale, il faut passer à la dimension horizontale, ce qui est l'amour. Mais avant, quand même, alors, vous dites, si le Seigneur est avec moi, ça va quand même, on a des chances pour que ça se passe bien. Mais il va aussi peut-être parfois nous laisser libre, agir. Il nous a donné les moyens de faire ce qu'il fallait correctement, mais enfin, moi je le vois comme ça. Mais il va te dire, bon, ça va, Pierre, je t'ai indiqué, je t'ai donné tout ce qu'il fallait pour que tu fasses les choses correctement, mais à toi de jouer. Je crois qu'il me prend pour une personne, un responsable. Alors, si j'ai cette foi vraiment au fond de moi, je ne vais pas m'écarter de ce qu'il m'a dit. Je vais utiliser tous les éléments que j'ai. Mais peut-être que parfois, à un certain moment de ma vie, ou avec d'autres rencontres, parce qu'il y a le Seigneur, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qui tournent autour, je ne vais pas exactement le faire, et là, je vais me tromper de chemin. Et c'est ensuite que je pourrais me dire, ah oui, tiens, j'aurais bien dû écouter, et revenir. Il y a cette notion aussi qu'il ne faut pas négliger.
Je vais prendre un exemple,
oui
peut-être pour continuer à aller dans ce sens, de se poser des questions. Il me semble que Dieu a créé le jour pour qu'on vive et la nuit pour qu'on dorme. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ce
sujet ? Oui, en gros, oui.
En gros, hein, voilà. Mais nous avons besoin d'électricité. Et donc EDF fabrique de l'électricité
pour
jour et nuit.
Chasser la nuit.
Jour et nuit, parce que la nuit, on a besoin de chauffer les maisons, on a besoin d'entretenir les frigos, ou, enfin de faire fonctionner les frigos, ou les ordinateurs, ou etc. Ou, voilà. Et donc, forcément, EDF a besoin d'équipes de jour et d'équipes de nuit. Ouf, et avec les 3-8 peut-être, hein, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Et les gens qui sont en équipe de nuit sont certainement mieux payés, ou en tout cas, quand ils sont de nuit, ils ont peut-être... ils sont plus payés quand ils sont de jour, et je crois que le travail de nuit fait plus de dégâts sur l'organisme. Si des gens étaient tout le temps en travail de nuit, alors quand le jour ils sont pas tellement en forme, et peut-être que
ils
meurent plus tôt, ou etc. Voilà. Et je crois que cette réflexion sur le travail de nuit devrait nous faire dire, mais alors, puisque Dieu a créé la nuit pour qu'on dorme, comment est-ce qu'on va faire en fait pour ne pas travailler la nuit? Alors, c'est une réflexion candide, c'est une question d'enfant, mais qu'on pourrait poser. Et si, au lieu de regarder à la productivité, à la rentabilité et à la croissance, hein, à ce que les observateurs aujourd'hui regardent avec des grosses loupes, hein, la croissance, hein, ce mois-ci 0,2%.
Oui.
Hein, alors, au lieu de regarder à la croissance, si on regardait à la qualité intrinsèque de l'humain, et à la qualité de sa vie. Alors je crois que là, on commencerait par tenir compte de la foi. Et on utiliserait nos erreurs en se rendant compte que les gens qui travaillent de nuit ont des problèmes pour réduire le travail de nuit. Hein, par exemple, alors, il faut un travail de nuit. Les gens qui sont malades la nuit sont contents d'avoir des médecins de garde, et des infirmières, etc. Donc, mais je crois que tout cela devrait nous amener à réfléchir et à poser des choses, mais à commencer à rechercher dans la relation avec Dieu comment est-ce qu'on peut avoir aboutir à quelque chose de raisonnable.
Alors je crois qu'au fur et à mesure qu'on avance, effectivement, donc on a pris un axe vertical qui était donc la foi, Et au fur et à mesure, on découvre des ingrédients qui font, que la vie peut être plus ou moins réussie pour certains, bien sûr. Mais là, c'est la foi. Mais il y a aussi une autre relation qui est horizontale, c'est l'amour. Alors, comment intervient l'amour? Comment peut-il avoir un impact sur notre vie à réussir?
La Bible est terrible. Elle est terriblement précise et on pourrait dire qu'elle est dure presque, hein, tellement elle est rigoureuse. Si je lis la première lettre aux Corinthiens et ces trois versets du chapitre 13, voilà, je trouve que les choses sont dites de manière assez carrée par rapport à la réussite. Je le lis. Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Déjà, merci pour la comparaison. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et quand je distribuerai en aliments tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je sois brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. On a donc ici les trois choses dont nous avons parlé, l'être, je suis, l'avoir, cela ne me profite de rien, et le faire, hein, le si je distribuais mes biens, etc.
Oui,
Voilà.
oui, oui,
Et donc, la grande chose ici qui est mise en avant, c'est l'amour. L'amour, c'est quoi l'amour? C'est quelque chose d'extrêmement simple et en même temps très compliqué à expliquer. Je vais le dire de différentes manières. L'amour, me semble-t-il, c'est ce qui résulte d'une relation respectueuse et persévérante.
persévérante.
C'est-à-dire que l'amour résulte d'une relation, c'est-à-dire que si je ne suis pas en relation avec quelqu'un, l'amour ne surgira jamais. Quand un jour un mari dit à sa femme, je ne t'aime plus, c'est pas que il est en train de considérer le sentiment qu'il habite, mais il se trompe parce que l'amour, c'est le choix de relationner, le choix d'être en relation avec l'autre de manière respectueuse et persévérante. Et alors, on pourrait dire, oui, mais y a-t-il des définitions de l'amour dans la Bible? Eh bien, il y en a très très peu. Alors, on va voir une définition qui concerne Dieu.
Mais je trouve que les définitions ne sont peut-être pas énoncées, mais il y a un chemin, c'est être.
C'est être,
Être de telle façon, ça prouve qu'il y a l'amour.
mais vous avez des gens qui sont terriblement, par exemple les artistes, hein, qui sont complètement dans leur instrument, dans leur chant, etc., mais qui ne seront jamais avec vous, qui ne vous écouteront pas,
Oui,
qui
mais.
jouent pour vous, mais en fait, ce n'est pas pour vous qu'ils jouent,
C'est
c'est pour
pour
ceux
eux.
qu'ils vont jouer,
Oui,
pour eux.
c'est pour eux.
Hein, voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, être. Quand on est dans l'être comme ça, alors soit on n'est pas dans l'être, ce qui est possible, soit on est dans un être égoïste à qui il manque justement une dimension relationnelle. Et justement, 1 Jean 4, verset 10 nous dit, voilà, ceci est l'amour en ce que Dieu nous a aimés et que Dieu a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Voilà une définition qui concerne Dieu et qui a pour mérite de nous dire, ben voilà, aimer, c'est avoir un projet à l'égard de quelqu'un. Aimer,
Oui.
c'est considérer quelqu'un. Dieu nous a considérés, Dieu nous montre l'exemple. Aimer, c'est considérer quelqu'un. Si je tourne la page de ma Bible et que je suis dans la deuxième lettre de Jean au verset 6, il dit, voici ce que c'est que l'amour, c'est que nous marchions selon les commandements de Dieu. Alors là, la définition de l'amour est tout à fait ailleurs. Dans la première définition, c'est vraiment considérer quelqu'un. Ici, c'est faire quelque chose qui vient de Dieu. Comme si finalement, quand on fait quelque chose qui vient de Dieu, de toute façon, ça ne peut être qu'en considérant quelqu'un. Et ça, on comprend aussi.
Oui. Mais je reste un peu quand même sur mon idée que le faire, c'est quand même l'amour. Hein? Parce que même d'un
L'être.
Corinthien, hein, si je vous dis par exemple, ainsi mes frères, soyez fermes. Donc il faut être ferme. Hein? Inébranlable, abondant, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et si j'applique ce verset, je suis donc attentif et je fais ce qu'il faut qu'il fasse.
Dans la mesure, c'est vrai, dans la mesure où ce que vous faites est dans le respect de l'autre. Moi, je connais beaucoup de chrétiens
Oui, bien
qui
sûr.
font, qui travaillent pour le Seigneur de manière admirable, mais qui ne sont pas fichus de rester avec leurs enfants, et ce qui fait que les enfants sont perdus. Hein, chez les professionnels dans le protestantisme, c'est souvent les enfants de pasteurs qui ne connaissent pas Dieu
Oh, qui s'en vont.
et qui s'en vont, parce que les parents ne sont jamais là.
Parce que, vous
Donc c'est pour ça
voyez,
que
dans Éphésiens aussi, par exemple, accorder votre vie à l'appel que vous avez reçu en toute humilité, en douceur, avec patience. Bah, c'est quand même l'amour là-dedans.
S'il y a de l'amour, c'est bien.
Oui,
Mais je pense qu'il y
c'est
a.
ça. Être.
S'il y a de
Intervient.
l'amour, c'est bien. Mais apparemment, nous n'avons peut-être pas les mêmes relations, hein, les mêmes personnes. Moi, je vois des gens qui sont
Bien
des
sûr.
chrétiens engagés et très fermes, mais qui sont des chrétiens qui ne sont pas relationnels.
Soumettez-vous les uns aux autres.
Voilà.
C'est une preuve
Et
d'amour.
tous les chrétiens qui sont autour de vous se soumettent? Je crois pas, non,
J'en suis pas
justement.
sûr, et
Je les connais un
puis
petit
je crains que même moi,
peu.
peut-être, ça marche pas toujours très bien.
C'est pour ça que il nous est dit dans ces actions d'un Corinthiens 13 que si nous n'avons pas l'amour, alors l'essentiel nous manque. Et alors, peut-être que ceux qui nous écoutent vont nous dire, oui, mais alors, d'où vient l'amour? Et je voudrais lire ce qui est dit dans 1 Timothée, au chapitre 1 et au verset 5, que l'amour procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire que si on veut vraiment être renouvelé, pour être en relation avec l'autre, alors il faut vraiment qu'on soit renouvelé dans notre relation à Dieu. C'est-à-dire que comment aimer nos ennemis, comment aimer ceux qui nous cassent les pieds, comment aimer ceux avec qui nous n'avons pas les mêmes affinités, c'est forcément en méditant ces choses devant Dieu, en décidant quelque part de vouloir aimer ces gens-là que nous nous estimons pas être aimables. Et si nous ne faisons pas ça, alors ce que nous faisons, le faire, risque d'être amputé de ce qu'il aurait de plus riche, en fait. Hein. Tout ce qui a de la valeur dans le faire, c'est l'amour. Comme si, finalement, le faire, l'action, c'est ce qui porte la relation. S'il n'y a pas de relation, alors l'action ne sert à rien, en quelque sorte. Il faut que, c'est comme le tuyau d'arrosage avec l'eau. Si j'ai un tuyau magnifique qui fait 50 mètres, qui est dans la meilleure, qui s'enroule facilement, qui se déroule facilement, qui est d'une qualité exceptionnelle, qui ne se tord jamais, qui est increvable, etc., mais que j'ai pas payé ma facture et que j'ai pas d'eau, eh bien, le tuyau, il sert à rien. Par contre, si j'ai de l'eau mais que j'ai pas de tuyau,
C'est pareil.
c'est pareil. Et donc, le tuyau, c'est l'action, c'est le faire, et l'eau, c'est l'amour, c'est l'être. Non. Hein, c'est pas l'être, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est la relation entre les êtres. Hein, c'est lié à l'être, mais c'est la relation entre les êtres. Et donc, je crois que on est un petit peu sur une corde raide là. Hein. Il faudrait que dans toutes nos pensées à l'égard de tout le monde, on soit toujours dans le respect. Et là, on se rend compte que c'est très exigeant.
Est difficile.
Mais pourtant, que c'est là où nous réussissons notre vie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et cela ne me profite de rien. L'être, l'avoir, dans le faire.
Ouais. Et en fait, je reviens peut-être à mon idée un peu initiale. Est-ce qu'il est important de se poser la question, de dire, est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que tout compte fait, vont répondre à tous les critères que vous avez énumérés et ces ingrédients qui sont nécessaires à mettre dans notre vie. Une confiance absolue en Dieu ne serait presque pas un certificat de garantie, disons, dans la réussite de la vie. Seigneur, d'abord je fais un acte de soumission, d'humilité. Je ne sais pas si j'ai réussi ma vie. J'espère que j'aime les ordres, j'espère que je fais ce qu'il faut, mais c'est toi qui vois. Je ne fais que ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Et est-ce que ça serait pas suffisant? Et je ne le dis pas au présent. Hein. C'est une supposition que je pose là. Hein.
On va développer ça avec l'espérance.
Voilà.
L'espérance, c'est donc l'attente. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que se poser la question de si j'ai réussi ma vie n'est certainement pas une bonne question. Ou en tout cas, ça dépend comment est-ce que j'y réponds. Personnellement, je dis que pour réussir ma vie, il faut que je sois en relation avec Dieu, la foi, et en relation avec les autres. Et donc, partout là où j'ai un prochain qui est à côté de moi, je le vis dans la présence de Dieu et dans la présence de l'autre. Et quand je fais ça, alors je sais que je suis en réussite, mais je ne sais pas comment. Parce que le comment ne m'est pas encore montré. Parce que le comment me sera montré
Plus
à la fin,
tard.
plus tard. Et c'est ça l'espérance. L'espérance, c'est très différent de l'espoir. Hein, l'espérance, c'est l'attente de la fin, alors que l'espoir, c'est peut-être que la fin va arriver. Hein, l'espérance, c'est quelque chose de beaucoup plus actif. Et donc, je crois que on va rester un peu dans des paradoxes, parce que ça fait du bien les paradoxes. Vous avez raison de dire, je me demande si me poser la question de comment réussir ma vie est si bien que ça, et je vous dis oui. Et par ailleurs, on se dit aussi, mais affirmons que réussir notre vie en Dieu est possible, dans la mesure où on a la foi et l'amour. Donc, à tout moment, on peut savoir si on est... Et c'est paradoxal, hein? Hein, on
Oui,
ne se pose pas
bien
la
sûr. Oui,
question,
oui.
mais on affirme quand même quelques réponses. Alors, je voudrais peut-être poser quelques jalons pour savoir comment est-ce que cette espérance se pose et arrivera. C'est quoi l'espérance? Qu'est-ce qu'on attend? Alors la Bible nous dit que Jésus-Christ va revenir et va revenir comme Messie sur Israël, c'est-à-dire comme choisi pour être roi et pour régner. Et il y aura à ce moment-là l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham en Genèse 12 et au verset 3, en ta semence seront bénies toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ va revenir, alors tous les pays seront bénis. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus-Christ, c'est la semence d'Abraham, hein, il est fils d'Abraham, il est fils de David, fils d'Abraham, de la tribu de Juda, et il est celui par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Ça ira bien dans toutes les nations.
Oui.
Pourquoi? Eh bien parce que en Israël, ils appliqueront la loi. Dieu sera présent, la gloire de Dieu sera dans le temple et le Messie
Là.
sera là. Et donc, Israël aura la meilleure économie du monde. Remarquez, c'est déjà un peu le cas, hein? La meilleure économie du monde, mais aura la meilleure vie sociale du monde, la meilleure écologie du monde, la meilleure productivité du monde, la meilleure, les meilleurs moyens technologiques, etc. Et donc, toutes les nations seront à regarder Israël et à dire, mais enfin, comment vous faites pour que ça aille si bien? Et Israël dira, mais venez, Venez écouter notre Dieu. Hein? Et c'est ça ce que l'évangile de, selon Matthieu, appelle l'évangile du royaume. Mmh. Et je crois que dans ce temps-là, alors, tout ce que nous aurons fait sera abouti. C'est-à-dire que votre famille, ma famille, trouvera l'aboutissement de tout ce que nous aurons fait. Les uns dans l'enseignement, les autres dans la vie urbaine, le troisième dans l'optique, le quatrième militaire, le cinquième dans... etc. Et donc tout ce que nous aurons fait aura participé à un monde qui sera utilisé par le Christ, dans lequel la responsabilité de l'homme aura été complète, et nous aurons fait quelque chose que Christ utilisera et qui sera beau. Mais actuellement, on n'a pas tellement idée. On se dit, on regarde par exemple, regardez mon bureau. J'ai une serrure avec ancrage à 3 points, anti-effraction. On se dit, mais c'est malheureux d'en arriver là quand même. Regardez mon trousseau de clés. Hein, il y en a combien? Il y en a une quinzaine de clés dessus. C'est malheureux d'avoir un trousseau où il y a 15 clés quand même. C'est malheureux, on se dit, mais on en a...
C'est pas normal.
C'est pas normal. Hein? Regardez, par exemple, les voitures qui sont protégées avec des alarmes, avec des antidémarrages, etc. On se dit, mais qu'est-ce que nous avons construit? Regardons, par exemple, aujourd'hui, les hôpitaux souffrent du manque de crédit parce qu'on essaye de privilégier justement l'action à la relation, hein, la technique à la personne, etc. Quoique, en France... Vraiment, nous remercions Dieu pour la qualité du monde hospitalier ou médical que nous avons. Et donc, je crois que quand Christ sera venu, alors tout cela aboutira. Actuellement, on a un petit peu comme... on voit le tapis, mais du dessous, vous savez, avec tous les fils qui dépassent, on se dit, mais oui. C'est affreux. Nous sommes en train de construire, c'est affreux. Et puis, alors, dans ma vie, il y a telle chose que je regrette profondément, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais... Et je crois qu'on a vraiment tort de voir les choses comme ça. On devrait beaucoup plus être, comme vous disiez tout à l'heure, dans la confiance en Dieu, et qui croit fermement que Dieu utilisera tout ce que nous avons fait, que ce soit pour lui ou pas pour lui.
Parce que Dieu est souverain. Ou bien ou pas bien.
Ou bien ou pas bien. Parce que Dieu est souverain. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit souverain ? Je crois que c'est quelque chose qui est un peu compliqué et que, mettons que la plupart des Français qui croient en Dieu ont peut-être tendance un peu à oublier. Le fait que Dieu soit souverain, ça veut dire que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, de la manière qu'il veut, avec qui il veut. Donc, Dieu autorise ou n'autorise pas. Rien ne pourrait se passer si Dieu ne l'autorisait. Aujourd'hui, en Corse, on voit qu'il y a des assassinats qui se produisent. Et c'est peut-être terrible à dire, mais Dieu est souverain, Dieu l'autorise.
Il peut y avoir une signification précise.
Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous voyons ce tapis avec tout ce qui est vilain par-dessous. Mais je pense que l'espérance, c'est d'attendre ce moment où nous verrons ce qui est au-dessus, et là où nous verrons que finalement, nous aurons construit quelque chose de magnifique. Et nous avons cette patience de savoir que tout ce qui a de la valeur, nous ne le voyons pas encore terriblement. Mais par contre, nous savons que ça a de la valeur.
Et nous savons que ça arrivera. Et ce sera une nouvelle révélation.
C'est ça. De quelque chose qu'on ne voit pas actuellement.
Qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas très bien définir. Même si on fait un effort, on ne peut pas le savoir.
Non.
On peut savoir quand on voit un tapis par-dessous, les dessins magnifiques, les couleurs vives qui sont utilisées, et les harmonies que ça représente, on ne peut pas le savoir.
Je crois que c'est important d'insister sur ce point-là, parce que dans la Bible, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de manière très précise de savoir quel sera l'endroit du tapis. Et nous, effectivement, nous en voyons l'envers.
On le voit à l'envers pour l'instant.
Et donc, dire « je me suis trompé »,
on sait pas.
Dans la mesure où c'est vrai que je me suis trompé, c'est bien.
Oui.
Mais par contre, dire ma vie est un ensemble d'échecs, ça, c'est pas bon, ça.
Oui, c'est pour ça que je disais, peut-être qu'il ne faut pas trop en faire une obsession de la réussite de sa vie et se remettre dans la main du Seigneur. Il sait, l'État souverain, ce qui était prévu.
C'est pour ça que dans mon discours, dans notre discours, par exemple, quand on dit aujourd'hui il pleut, Ou bien la pluie dans le Var a fait des inondations, il y a un mort, il y a peut-être 567 magasins qui ont été abîmés par l'eau. Et donc, quand on dit, voilà, aujourd'hui il pleut, on pourrait peut-être l'accompagner de « Mais Dieu est souverain
Voilà.
». C'est-à-dire que toujours être dans cette idée que Dieu fait quelque chose dans lequel il nous appelle à collaborer, mais que nous ne pouvons pas juger du résultat absolu de la course. Quand par exemple aujourd'hui dans les médias, je vois que un homme d'affaires égyptien est en train de racheter SFR, hein? Quand je vois que la Chine rachète les châteaux viticoles,
Un peu partout, oui.
Bourgogne, etc., ou quand je vois que le Qatar a
C'est
racheté
sale
le
partout aussi.
football, etc., alors on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Hein? À qui sommes-nous en train de nous vendre? Voilà. Mais d'un autre côté, je crois que tout ça, c'est utile, tout ça sert à quelque chose. Et que quelque part, Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'est jamais face à quelque chose qu'il ne contrôle pas et dans lequel il ne garde pas la main finalement. Alors, réussir sa vie, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu être dans cette relation avec Dieu qui fait que nous comprenons même intuitivement finalement tout ce qu'il faut comprendre pour être dans la réussite sans forcément savoir la décrire.
Et en appuyant bon, sur la foi, sur l'amour, mais surtout sur l'espérance, parce que nous sommes en attente
C'est ça.
d'une réussite, d'une vie éternelle et glorieuse avec Dieu.